Si vous avez le goût de voir Megadeth pour une dernière fois, c'est confirmé. La tournée va durer longtemps, mais l'arrêt au Centre Vidéotron, c'est le 6 mars prochain. La portion canadienne, avec invités très spéciaux, Exodus et Anthrax, qui vont s'occuper des premières parties. Et en fin de semaine, en fait, dès ce soir, 18h, vous écoutez le Garage à Dan et le Boulevard du Rock samedi et dimanche pour gagner vos billets pour aller voir Megadeth le 6 mars prochain au Centre Vidéotron. Une présentation Live Nation et Gestève. Les billets sont déjà disponibles. Gestève.com et Ticketmaster.ca. Sur les routes, Audrey.
Ça commence à ralentir pas mal sur la capitale Est entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, c'est plutôt à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Quelques problèmes, hauteur Première Avenue aussi. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de chemin Sainte-Foy, ça se fait sentir jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Et la 20 Ouest, c'est à la hauteur de chemin des Îles. Vous voyez autre chose? Simple, 418-971-1021 texto.
On va faire le tour de l'actualité auto avec Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Sam, salut!
Bonjour!
Comment est-ce qu'il va?
Ah, très bien.
Est-ce que tu as entendu parler cette semaine de fétichisme automobile?
J'ai pas entendu parler de ça cette semaine, mais j'ai déjà entendu parler de ça.
OK, donc c'est un phénomène qui est suffisamment courant pour que tu en aies entendu parler puis que ce soit pas relié au gars au Palais de justice cette semaine.
Non, mais je me souviens d'une entrevue à l'époque avec Patrick Lagacé dans le track.
On l'a fait jouer hier.
C'est de ça que je me souviens, là, du gars qui dormait avec son auto, là, que c'était comme sa blonde. Là.
Je l'embrasse avant de sortir. Là.
J'aime beaucoup les voitures, ça m'est jamais arrivé.
Ah, non, le gars au Palais de justice en fin de semaine, c'est un récidiviste.
Il se frotte ses hôtes de char.
Il fait arrêter des filles, il se déshabille puis il se frotte ses hôtes de char.
C'est parce que c'est des filles qui conduisent ou c'est parce que c'est des chars?
Non, c'est des chars.
C'est un doux mélange des deux, je pense.
Et vous pourriez, je suis tellement content d'être un garçon ou quelqu'un ferait ça sur mon hood de char, je serais tellement insulté. Comme, touche pas à mon char, voyons donc.
Il pouvait aller voir aussi, simuler qu'il y a un problème sous l'automobile, puis là, il allait en dessous du char, puis il se masturbait en dessous du char.
OK.
Ouais.
OK.
Mais c'est un gars qui va 23 mois en dedans, pardon, puis qui va aller chercher de l'aide, semble-t-il.
OK, bon, ben, content pour lui qu'il ait cherché de l'aide, honnêtement.
Fait que mettons que ça, c'est 10. rpmweb.ca, vous aimez les voitures où sur l'échelle à peu près? Là?
Est-ce que vous bannissez du monde?
Je pensais pas que dans le palmarès, ça allait être considéré quelque part.
Ça a l'air que votre site, c'est son Pornhub à lui.
c'est gratuit, il n'y a même pas de pub avec vidéo en plus.
Avec ton
super
émission la fin de semaine, tu penseras à ça la prochaine fois.
Hey, là, je suis comme déstabilisé complètement. Je sais pas comment vous répondre à part. Je croyais que le site c'était 10, maintenant je suis mal à l'aise.
C'est à un autre niveau.
Oui, oui,
c'est
exact.
C'est un amour sain.
J'espère, peut-être que ma femme dirait pas ça, là, parce que ça joue beaucoup dans ma tête, les voitures, mais pas à ce point-là. Mettons.
C'est ça, ben, elle est encore là.
Oui, oui.
Bon, voilà.
Puis elle est pas partie, elle est
heureuse.
C'est
pas un problème.
Ben non, ça va.
Bon.
C'est bon.
Vive les passions, mais il y a toujours bien des maudites limites.
Je suis 100% d'accord.
Hey, de l'actualité auto toute fraîche, c'est Transport Canada qui passe aux choses sérieuses avec Hyundai.
Oui, ben il y a peut-être une enquête qui va se déclarer concernant l'unité de contrôle de charge intégrée, qu'on appelle dans le jargon le ICCU. On parle de Hyundai, mais c'est les produits coréens basés sur la plateforme EGMP. Je vais en énumérer quelques-uns. Kia V6, Kia V9, on a le Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 9. Donc, des voitures électriques
stock,
qui ont été très populaires dans les dernières années. Nous, chez RPM, ça fait, à vrai dire, maintenant 4 ans que je suis avec l'équipe, là, et on travaille chaque année à faire les meilleurs achats. T'sais, on prend du temps à se taper sa gueule, littéralement. Là. On s'ostine à savoir quelle voiture mérite d'être recommandée, qu'est-ce qu'on recommande pas, quels sont les meilleurs produits par catégorie également. Donc, on fait un palmarès des produits.
C'est dur!
Très, très difficile. Oui, oui, vraiment, parce que parfois, c'est aussi...
Tout le monde a ses goûts, hein?
Ben oui, mais à quelque part aussi, il y a un volet, tu sais, on est une référence. À un moment donné, il faut que tu sois cohérent dans ce que tu dis aussi. Puis des fois, tu sais, même si toi, tu as une petite flamme pour un produit, si c'est pas cohérent puis ça fonctionne pas, mais à un moment donné, tu peux pas recommander ça puis dire c'est le numéro un d'une catégorie. Il y a bien des chars que j'aimerais mettre en numéro un, mais quand je regarde leur fiche de fiabilité, quand je regarde même les ventes qu'on va en faire, ça va-tu être facile à réparer ce char-là? Y a-tu des pièces disponibles et compagnie?
Tu peux pas laisser l'émotion entrer en ligne de compte.
Exact. Fait que des fois, c'est ça, on joue dans l'émotion et les voitures, c'est émotif. On vient d'en parler
c'est
monsieur.
C'est incroyable,
d'ailleurs.
Mais moi, ça me fait capoter. Je pense que dans le studio ici, on a des émotions modérées à nulles pour nos véhicules. Moi, j'aime bien mon char, mais ce n'est pas de l'émotion c'est mon côté très cartésien qui m'a fait choisir mon Celta.
C'est un amour fonctionnel.
Exact.
Oui, oui. La poche de hockey rentre, les enfants aussi, good.
J'adore mon char, c'est la deuxième fois que j'achète un Celta.
Ben, c'est ça, tu sais, à quelque part, je pense que tout le monde a un peu une préférence pour une marque ou une autre ou des choses comme ça. Mais bref, chez les Coréennes, chez les produits électriques, nous, chez RPM, on les a recommandés. Ça fait déjà 2 ans qu'on recommande les NX5 et compagnie. Et cette année, j'ai levé un petit drapeau parce que ça fait quelques années, depuis l'introduction des nouvelles plateformes GMP, que le constructeur a des problèmes avec le ICCU. Des problèmes comme ça, ça peut sembler mineur ou majeur, comment on le prend. C'est l'unité qui contrôle la charge du véhicule. C'est lui qui va déterminer quel genre d'énergie on va envoyer à la batterie, quel genre d'énergie on va envoyer à la batterie de 12 volts aussi qui alimente le système électrique des voitures. Mais le problème, c'est quand il y a un bris, bien, le véhicule doit être immobilisé. Il y a comme un bug informatique qui se passe dans le produit, puis là, on perd notre voiture pendant plusieurs semaines ou jours, le temps qu'on trouve les pièces puis qu'on le répare. Pour le moment, le constructeur assume les frais, il y a une garantie, tout est beau avec ça. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a continué à recommander, c'est que ça arrive en lançant des nouveaux produits qui aient des petits pépins. L'enjeu, c'est que ça ne semble pas encore réglé. Et là, on s'en va recommander, nous, les 2026. On va faire l'analyse pour l'année prochaine. Et il y a encore énormément de propriétaires qui semblent avoir des problèmes avec cette pièce fautive-là.
Là, faut-tu s'attendre à ce que tous les véhicules que tu as mentionnés, il y a des rappels?
Il y a déjà.
Il y en a
déjà. Rappels démis sur ces produits-là. Okay. C'est même le deuxième rappel qu'on fait sur les véhicules et c'est pas encore réglé. Donc, vous me voyez venir tranquillement. Même nous, chez RPM, on commence à se creuser la tête pas mal. C'est pas que les produits sont inintéressants. Performance, rapidité de recharge, confort, fabrication, il y a vraiment beaucoup d'argumentaires très positifs pour plusieurs de ces véhicules-là. Mais là, on commence sérieusement à se gratter la tête, à se dire ben ça se peut que la recommandation qu'on faisait va aller en évaluation de tel que le constructeur se trouve une ligne directrice et répare pour de vrai le problème.
Répète les modèles.
Il y a Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 9. On a également chez Genesis le GV70, le GV60. On va avoir chez Kia le EV6, le EV9. Donc, il y a quand même une panoplie de produits qui vont être touchés par ce problème-là. Je pense aussi, par exemple, à des nouveaux véhicules qui s'en viennent. Le Kia EV5, le Kia EV4, deux nouveaux véhicules
électriques avec ça.
Qui vont avoir le ICCU à l'intérieur.
Mais mettons là, une Kia Niro EV Wind, là, c'est correct, ça?
Oui, ça va être correct parce que c'est pas basé sur la plateforme EGMP. Donc,
génial.
C'est une plateforme de voiture électrique qui est un petit peu plus
ancienne.
Tu vas vivre tous les problèmes reliés à ta conduite automobile, mais celui-là, t'es correct.
Non, celui-là, ça va être correct. Mais sachez que si vous êtes propriétaire d'un des véhicules que j'ai énumérés, il y en a eu beaucoup de vendus sur les routes, donc il y a des bonnes probabilités. Il y a des rappels qui ont été faits, mais sachez une chose, on est là. Les médias en général, surtout, mettons, je pense que je vais prêcher pour nous, mais ça fait déjà quelques téléphones très sérieux qu'on a avec Hyundai et Kia. On est rendu à aller très loin dans nos démarches. On veut des chiffres maintenant et on met beaucoup de pression sur les constructeurs pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est de la situation parce que c'est une situation vraiment problématique.
Hey, vu qu'on est dans ces modèles-là, tu as une nouvelle concernant la Kia EV5 électrique 2027?
Un genre de produit que j'ai hâte justement de voir arriver et que j'espère que le problème du ICCU va te régler parce que tout est là pour que ce produit-là électrique soit un vrai succès.
Moi, j'attendais après ça. Finalement, je suis allée pour le moteur thermique parce que fallait que je change de char, mais je suis tellement curieuse de voir ce que ça va donner ici.
Ben, écoute, on est sur une plateforme 400 volts. Je vais faire ça résumé, OK? Un peu comme des consoles de jeux, qui sont très rapides, d'autres qui sont un petit peu moins rapides. Dans le 400 volts, c'est comme une console un petit peu moins rapide. Ça veut-tu dire qu'elle n'est pas performante? Pas du tout. Elle peut faire le travail pour bien du monde. C'est juste que lorsqu'on va dans les plateformes plus rapides, généralement, on est capable d'avoir des recharges qui sont plus efficaces aussi. Dans le cas du EV5 et du EV4, que je pourrais parler en parallèle, c'est deux nouveaux véhicules qu'on va introduire d'entrée de gamme dans l'univers électrique. Ils vont prendre la place du Niro, justement, le Niro EV qu'on a chez Kia. Ils vont prendre la place probablement du Kona électrique également qu'on a chez Hyundai. Et c'est une nouvelle génération qui s'en vient. Un genre de VUS, beau format, pas trop gros.
Je parlais de mon Seltos. Le EV5 ressemble beaucoup au Seltos. Peut-être un petit peu plus boosté.
Oui, exact. Un petit peu plus gros également. C'est sûr que c'est basé sur une plateforme de véhicules électriques, donc un petit peu plus imposant ici. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu les chiffres de vente, et pas d'avance, excusez-moi, les chiffres de prix qu'on va les vendre. Et maintenant, on sait que le modèle de base va commencer à 46 000 $ incluant les frais de transport et préparation. On parle quand même d'un produit qui devrait offrir aux alentours de 400 km d'autonomie quand même de série. Pour 46 000 $ sans les rabais, on commence...
Ça a-tu du sens,
ben,
ça, comme
prix? On commence drôlement à être dans des prix intéressants. Un des véhicules les plus populaires actuellement, c'est le Chevrolet Equinox dans l'électrique, qui va se vendre autour de 49 000 $ dans la version de base. Donc, on est quand même 3 000 $ en dessous pour un format équivalent. On a des versions équipées d'une plus grosse batterie et 4 roues motrices qui devraient tourner aux alentours de de 53 000 $ Ça peut sembler élevé, mais aujourd'hui, s'acheter un Forester bien équipé, c'est 50 000 $ Fait que là, tu sais, quand on compare ça, on se dit, bon, ben là, tu as une machine électrique avec une bonne autonomie qui s'en vient sur le marché. Donc, on sent que les constructeurs sont de plus en plus intéressés vers ce genre de produit-là. Et je peux vous affirmer aujourd'hui que le EV4 qui s'en vient, qui est une voiture qui ne sera pas un VUS électrique, va arriver avec un prix d'approche moins cher que le EV5 Donc, je ne peux pas encore vous donner tous les détails que je sais. Je m'en vais en Espagne le découvrir dimanche.
Okay.
Mais je sais une chose.
En Espagne!
Je sais une chose.
C'est plate, ta vie, toi.
Oui, c'est vraiment très, très plate. Mais je sais une chose, c'est qu'il va être encore moins cher. Fait que là, dites-vous que tranquillement, les constructeurs arrivent avec des véhicules électriques mieux aboutis, qui devraient aussi avoir des prix d'accueil plus intéressants. Maintenant, reste à réparer l'ICC.
C'est à se demander si les subventions gouvernementales, parce qu'il n'y avait pas juste le Canada qui en avait, là, il y avait plusieurs pays qui en avaient, si ça n'a pas retardé le fait qu'on ait des véhicules électriques plus accessibles?
À quelque part, les constructeurs se sont souvent cachés derrière la fameuse recherche et développement. Ouais. Ça coûtait cher développer les produits, ça coûtait cher créer les lignes de montage et blablabla, mais ils n'ont jamais fait des aussi bons états financiers de leur vie. Fait que, je me dis, à quelque part, clairement, il y a une dissonance ici. Je pense effectivement que c'était le temps aussi qu'on ralentisse le pas. Qu'est-ce qui est dommage, par contre, de cette mesure-là, qu'on a un peu abandonné les subventions à gauche puis à droite, c'est qu'on vient jouer au yo-yo avec les valeurs de revente de ces produits-là également.
Ouais.
Si vous avez acheté un véhicule électrique avec une subvention, qu'on l'a enlevé le lendemain matin, mais votre voiture a le prix de la valeur. Mais si on a continué à mettre des subventions super agressives, que les prix ont descendu des produits aussi, et là, les gens sont capables d'acheter le même produit que vous pour 15 000 de moins dans le neuf, mais là, vous venez de perdre toute votre valeur de revente. Donc, ça a été dommage que les gouvernements s'impliquent autant que ça, selon moi, juste pour pas donner la chance au marché de se régulariser par lui-même.
De aussi, se placer plus rapidement.
Exact, mais aussi pour les consommateurs de jouer au yo-yo comme ça, c'est pas très agréable avec notre portefeuille.
Avant de poursuivre notre conversation avec Sam Tremblay-Michaud sur l'actualité automobile, il y a des problèmes de circulation. Audrey, un accident?
Oui, bien, c'est un texto qui est entré pour nous dire qu'il y avait un accident en ce moment. Et là, je le cherche. C'est... OK, j'allais. Donc, c'est un accident qui est sur le boulevard Versant Nord à la hauteur de Robert Bourassa. Pourquoi tu ris?
Pour rien.
Mais non, vous êtes plusieurs à texter, fait que je vous réponds.
Oui.
Ça fait qu'à un moment donné, je perds certains contrôle, textos. Hein? C'est
un gros vendredi.
Oui, c'est un gros vendredi, t'as raison.
Oui, oui, oui.
Arrête de rire de moi, c'est correct que t'en as aussi des grosses
journées. Ris pas toi et ris avec toi.
Donc l'accident, c'est boulevard Versant Nord, hauteur Robert Bourassa, et merci à Mathieu qui nous dit que les remorqueurs sont arrivés
génial
sur place. Je sais pas pourquoi je te l'ai demandé, je l'avais tout.
Hey, c'est vraiment chiant, ça.
88-971-1021, s'il y a quoi que ce soit d'autre, gênez-vous pas. C'est une question intéressante, ça, Sam. Vendre son véhicule tel quel, sans garantie, est-ce que ça nous dégage de toute responsabilité?
Oui, c'est une bonne question que notre avocat avec qui on travaille, qui nous écrit des articles sur le site de RPM Web, nous a répondu, que j'ai trouvé super intéressant comme réponse. Parce que
ça, on entend ça sur des maisons.
Ben, j'étais le premier à le faire. J'étais le premier à le faire aussi. T'sais, des fois, quand tu vois des véhicules usagés, surtout, tu sais pas trop. Là, des fois, mais moi, je suis quelqu'un de très honnête. J'ai mon bilan d'historique, j'ai mes factures,
moi,
j'ai mes
affaires. Je garde toute la chemise, là, tous les travaux qui ont été faits dessus.
Pis c'est la meilleure chose à faire, t'sais, c'est d'être transparent le plus possible. Et retenez ce mot, ce sera la réponse à la question. C'est que, tu sais, des fois, on se dit, bon, on va se protéger, on va mettre aussi dans notre petit contrat qu'on fait à la main, vendu tel quel, sans garantie légale ou des choses comme ça. Et on a comme un peu l'impression qu'on est correct avec ça. La réponse officieuse, c'est oui et non. C'est que si vous mettez ça sur un contrat, ça ne vous dégage pas au complet du droit de bon fonctionnement de votre véhicule.
Okay.
Donc, ce qui pourrait arriver, c'est par exemple, vous vendez votre véhicule, vous mettez vendu tel quel, et que la personne a des problèmes avec son auto. Ça va chez elle, a des problèmes, vous écrit. Mais vous êtes une personne peut-être moins sympathique et vous décidez de ne pas lui répondre.
Mm-hmm.
Vous la ghostez, on essaie de ne pas lui répondre, on efface les messages, on
disparaît. J'ai vendu, c'est plus mes affaires.
On disparaît un peu.
Ouais.
Mais là, rendu là, il y a dans le Code civil du Québec, il y a quand même une obligation majeure qui est que les parties doivent être de bonne foi.
Même dans l'usager.
Même dans l'usager. Ça. Donc, si vous n'êtes pas de bonne foi dans la transaction, ce qui veut dire que vous ne répondez pas, vous ne prenez pas le temps d'ouvrir un dialogue avec la personne, même si c'est écrit tel quel, cette personne-là pourrait vous amener en cours puis dire, attends un petit peu, moi j'ai acheté un véhicule, on ne m'a pas bien expliqué c'était quoi, et la personne n'a pas pris la peine en plus de me répondre à mes questions pour m'aider dans mon processus.
Mais mettons que je ne les ai pas, les connaissances, pour répondre aux questions. Moi, je vends un char, mais je connais fuck all en mécanique, puis tout ça, puis le gars, il me dit, hey, le Galloper, c'est supposé d'être sa garantie, ça marche marche plus, whatever. Dis-moi, je sais pas quoi répondre à ça. Là.
Mais là, en partant, t'es pas obligé de donner une garantie là, en tant que vendeur particulier. Fait qu'en partant, tu pourrais dire, écoute, je suis pas un garage, il y a pas de garantie avec ma vente, et t'aurais raison.
Okay.
La chose qui est importante, c'est de juste ouvrir le dialogue. Et c'est ça que notre avocat nous a dit, c'est que l'important, c'est juste de pas rester silencieux, c'est d'avoir l'air de bonne foi.
J'en ai aucune idée.
J'en ai aucune idée, je suis désolé. Écoute, moi, j'ai eu l'auto, je ne savais pas.
Pas eu ce problème-là.
Écoute, j'ai donné ce que j'avais.
Voici les factures que j'avais, t'es dans le coffre à gants. Moi, selon mon expérience avec le véhicule, j'ai jamais rien vécu comme ça. C'est juste de garder un bon contact avec la personne également pour juste pas, justement, essayer d'avoir l'air de quelqu'un qui connaît pas la mécanique, mais qui se nuit à quelque part.
Faut que tu fasses l'équivalent, dans le fond, de dire, écoute, je sais, on a couché ensemble, je dis pas que ça réarrivera pas, mais j'aimerais mieux qu'on se revoie pas tout de suite.
Je cherche pas à entretenir une relation.
J'apprécie que tu m'aies écrit à 4 heures ce matin pour avoir des nouvelles, là, mais...
C'est pas toi, c'est moi.
C'est ça, OK, parfait.
C'est un peu ça qu'il faut répondre. Tu sais, puis les trois bons conseils qu'il nous donnait, justement, c'est que ça vaut la peine de, si vous faites un contrat à la main, d'inclure dedans vendu tel quel, c'est correct de le faire. C'est aussi de, si jamais vous savez, par exemple, qu'il y a une perte d'échappement sur votre véhicule, écrivez-le. De toute façon, la personne qui vient l'essayer va l'entendre, la perte d'échappement. Là. Donc, dites-le, j'ai fait une estimée au garage, et on me dit que le véhicule avait telle chose à faire dessus. Mettez-le dans votre contrat et surtout, répondez aux questions de l'acheteur une fois que la vente est faite. Ça va prouver votre honnêteté, votre transparence. Okay. Vous n'êtes pas obligé d'être mécanicien et de savoir tout ce qui est sur l'automobile. C'est juste de prouver que vous n'étiez pas non plus quelqu'un qui essaie de frauder ou quoi que ce soit. Comme ça, il n'y aurait effectivement pas de retour contre vous. Mais si à l'inverse, vous faites tout ce que je viens de dire, mais à l'inverse, dans le fond, vous ne faites rien de ça, bien là, vous pourriez avoir des problèmes, même si c'est écrit vendu tel quel.
Parlant d'avoir des problèmes, une histoire surréaliste, celle du snowboarder canadien Ryan Wedding, qui fait partie des gens les plus recherchés par le FBI.
Oui, on a mis... J'allais dire, sa tête a pris, c'est pas de même, mais on a, disons, une bonne fortune pour quiconque va être capable de donner des informations qui vont lui permettre à son arrestation.
Là. Le FBI a peut-être pas mis la main sur Ryan Wedding, mais ils ont mis la main sur un Christy de Beauchard, par exemple.
Vraiment. Et là, c'est là qu'on peut commencer à se poser. T'sais, au début, moi, quand j'ai lu les premiers textes par rapport à cette histoire-là, un Olympien qui est comme à la tête d'un des plus gros réseaux de criminels, je me disais, voyons, donc, c'est un peu tiré par les cheveux, cette affaire-là.
Quand même. Hein?
C'est quoi ce cirque-là? Mais quand on a mis la main sur sa Mercedes-Benz CLK GTR Roadster 2002, j'ai dit, bon, ben parfait, il est dans le crime organisé.
Vaut combien, ce char-là?
Il y en a 28 exemplaires dans le monde qui ont été faits de ce véhicule-là.
Fait que c'est quelque chose de hyper discret qu'on voit à tous les coins.
Non, écoute, c'est littéralement, quand j'ai vu les photos, je salivais. Là. C'est vraiment dans l'automobile quelque chose qui n'existe pas. Là. Construit à la main par le constructeur allemand. Il y en a 28 exemplaires qui ont été faits. Elle vaut 13 millions de dollars US.
Ben, tu vois, c'est 15 millions la prime qu'on met sur son...
On est à 18,2 millions de valeurs canadiennes en date d'aujourd'hui de ce bolide-là. Équipé d'un moteur V12 de 6 litres, c'est 604 chevaux, vitesse de pointe de 344 km/h. C'est fait en fibre de carbone.
Elle se transforme-tu en robot, là?
Je sais pas, mais moi, je pourrais avoir des émotions avec ce véhicule-là, par contre. Ça, c'est clair.
Wow. Je pense que même moi qui n'aime pas tant les chars, je pourrais avoir des émotions.
Ah non, écoute, c'est vraiment toute une bagnole et si ça vous tente de juste vous rincer l'œil sur un modèle qui est vraiment exclusif et très rare.
C'est des beaux mags, hein?
Oui. Et on a publié les photos officielles de sa voiture. Le FBI a publié les photos de son véhicule. C'est disponible un peu partout, puis c'est extraordinaire de voir ça.
En fait, ce qui me fait rire, c'est que je regarde le look de cette voiture-là à 18,2 millions de dollars, puis ça me fait rire de penser aux gens dans la région de Québec qui essayent de donner le look avec l'aileron pis tout, pis les mags.
Avec le char à 25 000.
À leur voiture de 12 500 $.
J'ai aussi une pensée pour tous les autres sportifs amateurs qui ont choisi de ne pas plonger dans la drogue, qui eux autres ont de la misère à se payer un char. Peut-être que tu le sais, mais... Pas, mais qu'est-ce qu'ils font avec un char qui saisisse de même? Ils le vendent aux enchères?
Bien, ils vont le garder. Dans le fond, ils vont le consolider parce que ça vaut ça. C'est un produit qui vaut 18,2 millions. Fait que tant que c'est dans les mains de l'État américain, ben eux font comme 18,2 millions, si vous voulez.
Ils vont-tu le rincer un peu?
Je pense pas, non. Ils vont le garder dans des bulles.
Mais là, non, faut que tu fasses rouler un char, voyons, Sam. Ouais. Tu peux pas laisser un char de même entreposé. Faut qu'une fois de temps en temps, ça roule. Sinon, tu sais ce que c'est. Ça s'encrasse, puis tout.
C'est
très Ferris Bueller.
Qui vont le garder jusqu'à temps qu'effectivement, peut-être un musée Mercedes pourrait racheter le véhicule, le mettre en exposition quelque part et compter cette histoire incroyable qui est derrière aussi. Là. Donc, il y a vraiment une pièce de collection devant nous qui a été saisie. Là.
J'ai fini le documentaire sur Puff Daddy. S'il y en a une de même, probablement que l'État va la ramasser
Oui, pas mal certain.
Ça de même. Trois nouveaux bolides exotiques chez Toyota. C'est des annonces qui ont été faites cette semaine?
Hier soir, j'ai écouté ça en direct. C'était au Japon, donc il était 9h ici quand ça a été dévoilé. Donc, Toyota qui lance officiellement également le retour d'une voiture exotique dans son alignement, la GR GT, une voiture V8 avec un moteur 4 litres biturbo, avec une, bien sûr, de l'hybridation, parce que c'est Toyota et on veut toujours garder ce genre de mécanique-là dans nos produits. Ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas vu un bolide de performance chez le constructeur à ce niveau-là. Pas beaucoup de données encore à vous donner, justement, parce qu'on vient de le présenter, mais ce qu'on sait, c'est que ça sera le véhicule le plus extrême du constructeur, du moins depuis les 10 dernières années, si c'est pas les 25 dernières années même, parce que la dernière remontait chez Lexus avec la LFA. On avait un moteur V10 à l'intérieur de ça. Belle bagnole qui a été éteinte en 2012, donc ça fait 13 ans aujourd'hui. On va avoir toutefois le retour de la LFA aussi, donc on nous a présenté la LFA Concept hier également, mais désolé pour les amateurs, elle n'aura plus de moteur V10 avec un son hallucinant. Ceux qui savaient ceux qui connaissaient le modèle que je vous parle, vous savez que c'est un produit mythique. On l'a remplacé pour avoir un produit électrique maintenant, donc ça serait une LFA électrique. Et on a aussi sorti la GR GT3 pour ceux qui veulent aller faire de la course. C'est le même principe que la GR GT, donc on a un V8 4 litres, mais il n'y a pas d'hybridation. C'est vraiment axé pour aller vite sur une piste de course, bolide assez hallucinant et très performant.
Je comprends rien de ce que tu dis, mais c'est vraiment beau.
Ouais, mais c'est surtout pour les amateurs qui nous écoutent actuellement.
Le pire, c'est qu'ils nous écoutent, puis eux autres, ils comprennent.
Je le sais, fait que c'est ça. Je savais que ça allait être un petit peu plus pour les fanboys, là, mais je suis un fanboy de voiture, donc voilà, je me suis permis de me lancer dans cette aventure.
Sam, il y a un auditeur qui a besoin peut-être de tes précieux conseils.
Oui.
Une Kia EV9 2025, 7 places. Les pneus d'été sont finis après 13 000 km. Mmh. Le concessionnaire me dit que c'est de l'usure normale. Aucune roulotte, aucun équipement de remorque sur le véhicule. Une petite famille de 5 qui devra investir au printemps prochain pour d'autres pneus d'été. Mmh. Un, as-tu des conseils de pneus? Deux, est-ce qu'on se plaint au concessionnaire?
Ça sert à rien de vous plaindre. Malheureusement, on met souvent des pneus qui sont de mauvaise qualité sur les véhicules neufs pour abaisser le prix de production. Donc, ça se peut que les pneus que vous ayez eus sur votre produit n'étaient pas de bonne qualité à la base. Il y a aussi une autre chose à savoir.
C'est de l'usure normale pour de mauvais pneus, c'est
oui.
Ça que tu veux.
Ben, ça peut être ça, mais
il y a, mettons,
ouais, mais il y a aussi le fait que c'est un produit électrique. Quand on embarque dans une voiture électrique pour les premières fois, on a envie de peser un peu plus sur l'accélérateur. Hein, c'est le fun, ça se conduit bien, on fait des accélérations plus vives. Le comportement routier du véhicule est souvent plus agréable aussi. Et on ne conduit généralement pas notre véhicule électrique comme on conduisait l'équivalent thermique auparavant.
Okay.
Et avec le poids de la batterie.
C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que le poids de la voiture peut changer ça?
Ben, c'est sûr. On met le poids et les performances ensemble.
Là, ils sont 5 là-dedans.
Ils sont 5 là-dedans. Puis c'est clair que. Je vous comprends.
Ça joue?
Moi, je joue beaucoup avec mes voitures électriques. Je pèse beaucoup sur le gaz aussi. Et ça donne en sorte qu'on va user plus rapidement les pneus. Malheureusement, c'est vraiment relié à votre style de conduite. Mmh. Je vous invite à regarder pour des pneus EV. Ça existe, hein, des pneus qui vont avoir une semelle beaucoup plus rigide à l'intérieur, comme des pneus HL pour du high load, pour les pneus plus de camionnettes ou de fourgonnettes. Ça existe dans l'électrique. Et je vous conseille d'investir sur le pneu que vous allez choisir. Ça vaut la peine d'aller voir un atelier spécialisé qui va vous référer le pneu adapté à votre véhicule.
Est-ce que ça se fait négocier ça quand tu choisis ton véhicule avec le concessionnaire?
Ce qui pourrait être intéressant de faire, par contre, ça serait de voir est-ce que vous pouvez peut-être m'arranger un bon deal sur mon prochain achat de pneus. Moi, c'est un peu là que je voulais finir la chronique. C'est d'aller voir le concessionnaire et dire, écoutez, je viens d'acheter un produit autour de 60 000 $ là. Je suis un client qui a 13 000 km au compteur. Je vais revenir ici probablement. C'est peut-être mon premier et ou mon dernier Kia. Ça vous tente de bien s'arranger avec moi.
Ouais.
Ça me ferait plaisir si vous pouviez me faire un bon deal sur les pneus que je vais acheter. Peut-être de couper la poire en deux, d'avoir une gratuité, de travailler sur avoir un bon rabais. Je pense que tout le monde peut mettre de l'eau dans son vin dans ce scénario-là.
Sam Tremblay-Michon, merci beaucoup.
C'est un immense plaisir.
rpmweb.ca. Il est 15h48. Vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour. On se lance en news.